l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ces textes de l'Apocalypse ne sont pas si faciles à comprendre. Je ne sais pas ce que nous en avons retenu chacun et chacune ici, parmi nous. Mais ce qui nous y dit, eh bien, nous le savons bien, notre monde a commencé et il aura une fin. Aujourd'hui d'ailleurs, les scientifiques proposent des dates pour le début de l'univers, puis pour l'apparition de l'être humain sur la Terre. Il constate aussi que l'énergie se dégrade et en déduise qu'un jour encore lointain, le monde arrivera à son terme. Or, les textes bibliques de ce jour nous replacent devant la fin des temps, appelée les fins dernières. L'accomplissement du mystère chrétien, la récapitulation de toutes choses dans le Christ. Et cette récapitulation, elle prend la forme de restauration, étant donné que l'homme a perturbé l'œuvre de Dieu. Elle s'opère, cette restauration, à travers l'histoire du salut, c'est-à-dire l'histoire de Dieu qui veille sur l'humanité pour la réconcilier avec lui. Alors, si vous voulez, essayons d'en retracer, à partir de ces textes d'aujourd'hui, les grandes étapes. À la différence de nombreux textes païens qui annonçaient la fin des temps comme une catastrophe, qui ne pouvaient alors qu'engendrer la peur, les textes de la Bible et ici celui de Daniel que nous avons entendu en première lecture, nous parle de catastrophe, mais en même temps, il nous parle de catastrophe, mais en même temps, il nous parle d'espérance. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Bien sûr, nous ne pouvons pas écarter la perspective de la mort, notre mort individuelle, mais aussi celle de la totalité de tout ce qui vit, que la science est obligée d'envisager, même si certains dans le transhumanisme aujourd'hui pensent qu'un jour on arrivera à supprimer la mort. Il faut bien laisser rêver certains. Mais Daniel nous dit, et, mais d'abord la science plutôt, est obligée d'envisager que devant cette mort, alors, cela peut paraître, si c'est la fin du tout, comme une perte, un gâchis, et qui ne peut qu'engendrer la peur. Et Daniel nous dit que c'est une crainte d'une autre nature qui doit nous animer. La fin des temps, elle mettra un jour à jour notre responsabilité. Une question nous sera posée à tous, à chacune et chacun. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Pour les croyants que nous sommes, nous ne pouvons envisager notre vie que comme créée par Dieu, responsable devant notre Créateur. Chacun, nous aurons à répondre du don que nous avons reçu. Nous sommes des êtres responsables et libres. Or, nous voyons à travers toutes ces étapes de l'histoire de la Bible, plutôt que de conserver un lien, de rester en relation avec son Créateur qui seul peut la faire vivre, l'humanité cherche à se suffire par elle-même. Elle élimine Dieu. Alors, la mort, ce passage vers Dieu, ce passage à Dieu, ne peut lui apparaître à l'humanité être envisagé que comme la fin de tout. Dieu, en effet, étant absent, la mort apparaît comme un mur sur lequel tous nous venons comme butés. Les textes de l'Ancien Testament sur la fin des temps et donc de celui de Daniel viennent nous sortir de la peur. Ils nous annoncent que cette perspective de mort, elle peut être illuminée d'espérance. Oui, Dieu en effet a décidé de ne pas abandonner sa créature pécheresse qui s'est détournée de lui. Il a décidé de ne pas l'abandonner à la mort. Un choix responsable est à nouveau donné à tout homme. La liberté de l'homme croyant que nous sommes est alors donnée, sollicitée par Dieu. Ou bien nous allons nous enfermer dans la mort en nous enfermant nous-mêmes dans notre propre suffisance, ou bien nous laissons notre cœur s'ouvrir à l'espérance, à l'attente d'un sauveur qui viendra réconcilier les hommes avec lui. Tel est tout l'Ancien Testament, tous les textes de l'Ancien Testament, cette ouverture à l'espérance. Alors, en poursuivant les différentes étapes de la Bible, voici que le Nouveau Testament, il nous dit que le Sauveur que les prophètes annonçaient, que les croyants attendaient, il nous a été donné, il est venu parmi les hommes. C'est Jésus-Christ. Et les textes de l'Évangile nous crient alors d'une manière tout à fait nouvelle, nous parlent d'une manière tout à fait nouvelle. Il nous annonce le retour de Jésus d'une manière entièrement nouvelle à la fin des temps. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Est-ce que nous portons cela dans notre cœur, cette confiance qu'il reviendra à la fin des temps et que notre monde n'est pas un monde à la dérive sans sens qui ne va que vers la mort? Oui. Dans son humilité, le Fils de Dieu, il vient nous greffer, il vient nous configurer, il vient nous faire entrer dans l'intimité de sa propre vie, et de sa relation avec son Père. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous révèle à la fois l'horreur de notre péché qui est capable d'infliger la mort humaine à lui, le Fils de Dieu, et en même temps il nous révèle sa victoire par amour sur cette mort offerte à tous ceux et celles qui voudront le suivre, lui Jésus. Et nous pouvons retenir dans la deuxième lecture, il a offert pour les péchés un unique sacrifice. Alors, le choix qui s'offre à nous croyants et à tout homme n'est plus de savoir si nous péchons ou si nous ne péchons pas. Ou bien, comme les croyants de l'Ancien Testament, ce choix entre espérer ou ne pas espérer. Le choix qui nous est proposé, il est celui de croire en lui, Jésus, ou de ne pas croire en lui. Il est de vivre comme lui, ou de ne pas vivre comme lui. Le choix, il est de le laisser vivre en nous et d'entrer dans son intimité, ou bien de lui refuser cette hospitalité. Qu'allons-nous répondre ? Sachez que le Fils de l'homme est proche, vous vous souvenez la phrase de l'Évangile, à votre porte, à la porte de notre cœur. Le rendez-vous de Dieu, c'est aujourd'hui à notre porte. Le règne de Dieu est à l'œuvre. Que faisons-nous pour qu'il grandisse? C'est à chacune et chacun de répondre. Et je ne voudrais mentionner qu'un point, en cette journée mondiale des pauvres, instaurée par notre pape François, comme le rappelait le père Rodrigue au début de cette Eucharistie. Répondons à son invitation de toujours mieux vivre dans notre communauté de Saint-Jacques, Saint-Christophe, cet accueil des plus pauvres qui est l'affaire de toute la communauté. Vivons toujours davantage cette rencontre, non pas bien entendu comme une bonne action, mais comme une rencontre, lieu d'une véritable expérience spirituelle qui nous enrichit mutuellement et fait grandir le règne de Dieu. N'est-ce pas d'ailleurs ce que nous vivons, et là aussi le père Rodrigue le rappelait dans notre communauté, à travers l'accueil des migrants, hiver solidaire, le café du jeudi, la braderie, l'épicerie alimentaire et bien d'autres initiatives personnelles ou associatives. Oui, à travers tout cela et dans bien d'autres domaines, nous faisons grandir le règne de Dieu. Alors, écoutons le pape. Je vous invite d'ailleurs, et je crois que ça vaut la peine, de chercher dans Internet, justement, le message du pape pour la journée des pauvres pour cette année 2018. Un petit texte vous est proposé dans notre feuille hebdomadaire. J'en ai retenu moi-même pour cette homélie pratiquement le même passage. Donc, un pauvre cri, le Seigneur entend. Les paroles du psalmisme, elles deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de souffrance, de marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous avons coutume de désigner par l'appellation générique des pauvres. Il nous a d'abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers lui, qu'il est bon avec eux, avec ceux qui cherchent refuge en lui, le cœur brisé par la tristesse, la solitude, l'exclusion. Le Seigneur écoute ceux dont la dignité est bafouée et qui ont cependant la force d'élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Le Seigneur écoute ceux qui sont persécutés par une justice inique. Ce qui jaillit de cette prière est d'abord un sentiment d'abandon, confiant en un Père qui écoute et accueille. C'est sur cette même longueur d'onde que nous pouvons comprendre alors ce que Jésus a proclamé à travers cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ne passons pas, dit encore notre pape, à côté de cette occasion de grâce. En ce jour mondial des pauvres, considérons-nous tous comme leurs débiteurs, afin qu'en nous tendant la main les uns et les autres, se réalise la rencontre de salut qui soutient la foi, rend effective la charité et donne l'espérance pour progresser avec sûreté sur le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. Et je termine, vivons donc avec joie dans cette confiance de filles et de fils bien-aimés de Dieu. Notre vie de chrétien est un combat. Ce combat, il se déroule dans la nuit de la foi, tout au long de notre existence, aujourd'hui. Mais à la fin des temps, celui que nous avons cherché dans la nuit, telle est notre foi, nous le verrons face à face. Nous le découvrirons alors pour qui il est, le Dieu tout amour et toute miséricorde dont nous sommes tous, à commencer par les pauvres, les enfants bien-aimés.